6h01, nous sommes mercredi 27 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Journée très, très chaude. Et je dirais que pour ce 72 heures de canicule, là, c'est la journée où on va atteindre le maximum le plus élevé. 35 degrés, c'est ce qui est prévu avec l'humidex à 42. Donc du soleil pour lancer la journée. Ça continue également ce matin, ça se poursuit en après-midi. Il y aura peut-être plus de nuages en fin de journée, faible risque d'averse à cause de l'humidité. Et donc, pour aujourd'hui, l'indice UV est de 9. Alors, journée encore plus chaude qu'hier. Pour ce qui est de demain, on prévoit du soleil encore, quelques nuages, 31 degrés. Et vendredi, assurément, on aura de la pluie. La probabilité d'averse est à 70 % et le maximum, là, ça baisse, c'est à 25 degrés. Dans la nuit, par exemple, de vendredi à samedi, on prévoit de la pluie intermittente, ce qui va nous amener du temps frais pour la fin de semaine avec du soleil 20 degrés samedi. Et puis dimanche, dernière journée du mois de mai, ce sera ensoleillé avec un maximum de 18 degrés. Bon. Alors, c'est sûr qu'hier, c'était une journée extrêmement chaude. Il y a eu encore là, appelons ça, hésitation concernant toute la question de la climatisation. Soyons très clairs, là. Les chiffres parlent. Il y a 20 % des espaces en CHSLD qui sont climatisés. Il y a presque dans tous les établissements une aire commune, mais on comprend que c'est difficile de commencer à promener les gens, là, les résidents, à qui, en fait, certains sont contaminés, d'autres ne le sont pas. Il faut éviter qu'il y ait cette espèce de recoupement. Bref, ça a commencé par des indications de l'Institut de la santé publique qui disait, comme la science n'est pas précise, est-ce que c'est dangereux de partir un climatiseur, est-ce que ça peut propager le virus, bien, on laisse le choix aux établissements. Bizarre de prise de position, là. Et ça a pris le docteur Arruda plus tard qui a dit, bien, finalement, là, allons-y, puis rafraîchissons les personnes qui sont dans les établissements. Alors, beaucoup de parents, de proches, d'aidants, s'étaient fait dire non. Venez pas porter un ventilateur, venez pas porter un climatiseur, il n'y en a pas question. Et là, la directive de la santé publique a évolué. Mais autant pour les employés, pour le personnel que pour les résidents, quand il fait 30-quelques degrés dans le fourneau, là, il n'y a pas de circulation d'air. C'est un des problèmes aussi importants. Et là, je ne veux pas ce matin là, partir des débats, mais on peut-tu au moins se parler franchement? On ne peut pas tout prévoir. Il y a des imprévus dans la vie. Mais là, ça fait quelques jours, un, qu'on savait que la canicule frapperait le Québec, frappait Montréal. Je m'excuse aussi là, auprès des fonds-fonds, là, mais c'est parce que c'est quand même régulier que nous ayons des canicules durant l'été. Tout moyen de se préparer. Ce matin, dans la presse, vous avez un gars qui raconte, M. Luc Despatie, propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Loup Froid, et qui loue donc dans les CHSLD des équipements de climatisation. Et lui, dès le 7 avril, a écrit à la ministre Marguerite Blais en lui disant « On devrait être sur la liste des services essentiels. Il va finir par y avoir du temps très chaud au Québec, là. Puis il y a des fournisseurs. » Et habituellement, le protocole prévoit qu'on installe les climatiseurs au mois de mai. Alors lui, il dit, on peut-tu commencer un petit peu plus tôt dans le contexte? Évidemment, pas eu vraiment de réponse. Et là, les mémos sont partis cette semaine. C'est un exemple assez flagrant, là, de manque de planification. Et c'était quoi le problème si on avait installé ça fin avril, début mai, en se disant, bien, tant mieux si ça ne sert pas trop avant le mois de juin ou encore le mois de juillet. Et ça arrive alors qu'on nous inonde de rapports et d'enquêtes sur la situation dans les CHSLD. Hier, on a eu ce rapport sur l'Ontario, qui est épouvantable. Je l'ai lu hier après-midi. C'est-à-dire, il y a deux constats qu'on fait. Le premier, on a laissé mourir des gens dans des conditions de négligence, c'est innommable. Que ce soit des gens qui se sont retrouvés, donc, dans des situations d'insalubrité, des gens qui étaient mal nourris, déshydratés, des gens qui étaient couchés sur des lits avec des plaies, il n'y avait même pas de drap, des patients où il y a eu des erreurs de médication, des soins palliatifs mal administrés, là. C'est le constat fait par l'armée dans quelques centres en Ontario. Il y a un rapport qui s'en vient sur le Québec. Pensez-vous sérieusement que ça va être bien différent? J'ai hâte de voir, mais on peut penser que, avec tous les échos qu'on a eus, puis il y a encore des infos qui sont dans le Globe and Mail ce matin, suite à des requêtes d'accès à l'information, ou dans des centres au Québec, on le sait. Problème d'équipement. Bien sûr, des gens asymptomatiques qui se sont rendus dans les centres. Et également, le va-et-vient entre les fameuses zones froides, tièdes, et les zones chaudes également. Et malheureusement, ça continue encore moins, mais ça continue encore. Puis des exemples de membres du personnel contaminés qu'on a retournés plus vite, notamment en Mauricie, mais ailleurs aussi, là, parce qu'on manquait de personnel. Et je sais que l'argument, ça va être ça. Et ce matin, on se retrouve au Québec, et pas juste ce matin, là, avec un nombre élevé de morts par million d'habitants. On a beau les compter comme on veut, puis avec les délais qu'on veut, là, il en demeure pas moins qu'il y a plus de 4000 personnes qui sont décédées au Québec. C'est quand même majeur, là. On oublie ça, là. C'est devenu presque banal, la présentation des chiffres. Mais c'est plus de 4000 personnes. Puis là, vous avez les cyniques qui se disent, ben là, de toute façon, ils seraient morts. Ils sont âgés, ils sont dans des résidences. Ils seraient peut-être pas morts aussi vite et surtout pas dans des conditions comme ça. Et rappelons-nous ce qu'on a fait. C'est un choix, là. On a voulu libérer le plus de lits. On a envoyé les personnes âgées dans des endroits où il manquait de personnel. Et on les a mis, donc les plus vulnérables, ensemble dans un site de contamination potentielle. C'est ça qui est arrivé. Alors là, je vois les enquêtes. Protectrice du citoyen à Québec qui dit « Je vais faire une enquête ». Il y a des enquêtes de police pour ce qui est arrivé à Irons. Il y a des enquêtes du coroner pour comprendre les circonstances. Vous avez le rapport des Forces armées canadiennes. Il y a d'autres types d'enquêtes suite à des plaintes logées à la CNESST. Donc, il va y avoir beaucoup d'enquêtes, là. Puis le premier ministre n'a pas fermé la porte à, disons, une enquête publique. Mais ce qui est important, là, c'est de cibler cette crise-là. Là. On ne fera pas l'histoire du système de santé. Puis les libéraux ont été les plus négligents parce qu'ils ont été les plus longtemps au pouvoir. Et si on n'a pas été capable de régler la question, je dirais, de la salubrité des lieux, bien, les libéraux doivent en assumer une grande partie des responsabilités. Mais le gouvernement actuel a peut-être pas, puis là, je le sais que ça ne fait pas plaisir aux caquistes quand on dit ça, là, mais bon. Disons qu'en termes de planification, quand on compare avec d'autres provinces, puis l'opposition l'a fait hier, le PQ a quand même mis ça en lumière, là, qu'on n'a peut-être pas pris ça nécessairement assez vite au sérieux, en termes surtout d'équipement, pendant qu'on avait besoin de ces équipements. Mais disons-le, franchement, ça a comme pas mal dérapé au Québec. Alors, aujourd'hui, va être une journée quand même assez dure pour encore bien des gens, pour ces personnes âgées qui sont confinées, puis il y en a qui m'écrivent qui ne sont pas dans des CHSLD, là, mais tu sais, qui sont comme dans des résidences, ils peuvent un peu sortir, mais là, il fait chaud. C'est quand même des journées qui sont pas faciles. La bonne nouvelle, c'est qu'en principe, demain, c'est la troisième et dernière journée. Peut-être encore un peu chaud, humide vendredi. Puis après ça, on va retrouver du temps plus frais. Mais d'où l'importance de prévoir le coup, là, pour ce qui va se produire en juin. En juillet, on sait que l'été s'étire souvent, de plus en plus. Donc, au mois d'août, c'est quoi le plan de la Ville de Montréal, là? Je parlais avec mon ami Fabrice de Pierrebourg hier, qui me disait, après la vague de chaleur en France qui avait tué beaucoup de personnes, ben les autorités avaient établi un plan avec des zones de rafraîchissement, des halls d'hôtels qui étaient accessibles pour permettre aux gens d'aller souffler un peu. Distribution d'eau, par exemple. C'est quoi le plan de la Ville de Montréal? On ne sait pas. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais c'est le genre de truc qu'il faut que tu planifies, à moins que ça soit encore la marque de commerce de la Ville, de vouloir improviser comme ils le font actuellement avec les pistes cyclables qu'ils ajoutent puis qu'ils peinturent dans la rue, puis que, dont on va vous reparler dans quelques instants. Marc est là, il y avait un véhicule en panne tantôt sur Ville-Marie. Bon, puisqu'on parle de Montréal, la santé publique qui a donc permis l'ouverture de certains points d'eau. Là. On ne parle pas des piscines, là, mais des endroits comme Pataugeuse où on peut aller avec les enfants. Puis bon, il n'y a pas de... En fait, c'est sous la responsabilité des parents, avec toujours les mêmes règles, le fameux 2 mètres. D'ailleurs, pour ce qui est des piscines, j'imagine qu'on va annoncer un plan bientôt là, pour les piscines extérieures, parce que, bon, il va faire chaud et c'est pas un endroit, d'après ce qu'on peut lire, là, qui est tellement propice à la propagation. Oui, autour, évidemment, on va pas s'asseoir tous ensemble collés sur le bord de la piscine. Les vestiaires, par exemple, mais le fait de se baigner, c'est pas à risque, ben. Alors, j'imagine qu'il y a un plan aussi pour ce qui est de la santé publique. Le camping, bon, Louis Lacroix sera avec nous tantôt, il y a eu tous les détails, il va nous donner ça. Mais on sait donc que ça va se faire le 1er juin, que les gens attendent ça avec quand même beaucoup d'impatience. Alors, ça va se faire, d'abord, il faut que ça soit des gens, là, quand vous allez camper, issus de la même famille. Et également, il faut que ça soit du camping avec un véhicule récréatif, une roulotte ou encore une tente. Accès très limité au bloc sanitaire. Fait que là, prévoyez vous organiser, si vous êtes capable. Il n'est pas question non plus d'aller scorder ses tables à pique-nique. Les aires communes, bon, la piscine dont je parlais, tout ça va demeurer fermé. Et ça va donc tranquillement reprendre. Et Louis a eu toutes les directives là, sur les distances à respecter. Mais d'ailleurs, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est propriétaire d'un petit resto en région qui me raconte qu'il sert des repas pour emporter. Puis il y a juste comme une espèce de guichet là, qui est ouvert. Les salles de bain sont fermées. Les tables à pique-nique ont été rangées. Et tu peux aller chercher un repas, mais tu ne peux pas manger sur place. Tu ne peux pas t'asseoir, puis il faut que tu partes. Mais il y a des gens. Et paraît-il, d'après cette personne, beaucoup de gens âgés qui s'en sacquent et qui défont les tables puis qui s'installent en paquet pour pouvoir manger. Puis t'as beau leur dire de s'en aller puis qu'ils peuvent pas faire ça, là, ça gueule, ça crie, puis ils sont pas contents. Alors, dans le cas des campings, ben, il va falloir aussi là, respecter cette distance du 2 mètres. Il y a des chiffres ce matin publiés concernant le tourisme. Alors que pour beaucoup d'entreprises touristiques, c'est clair que c'est une catastrophe annoncée. Donc, quand on dit que 36 % d'entre elles ont fermé leurs portes ou suspendu leurs activités pour l'été, là, c'est pas loin de 40 %. On a oublié ça, là, ça ne reviendra pas cet été. Là, on fait une croix avec des faillites, avec des pertes d'emplois. Et donc, environ une organisation sondée sur deux juge catastrophique l'impact de la crise. Les deux tiers disent avoir perdu 40 % au moins de leur chiffre d'affaires durant le premier trimestre de 2020. Alors, c'est sûr que l'industrie touristique, qui génère beaucoup d'argent, puis jusqu'à la crise, le Québec était une destination très fréquentée, Montréal également. Bien, là, on sait que la ministre du Tourisme va faire un point de presse cet après-midi. Il y a toute la question des régions aussi, à quel moment on va permettre peut-être un peu plus d'activité. On connaît un peu les appréhensions, les gens qui ne veulent pas venir à Montréal, puis les gens en région qui ne veulent pas recevoir trop de Montréalais, mais quand même. Là, je vais vous parler de l'aménagement à Montréal de ces pistes cyclables temporaires ou ces fermetures de rues temporaires. Là, l'idée, on la comprend, là, mais c'est fait de façon tellement croche, je dirais tellement improvisée, dans le secret et dans l'indifférence face aux citoyens. C'est un « je m'en foutisme ». Et là, je ne parle même pas des autos. Là. Je sais que vous allez dire « ouais, mais là, les chars, ça va faire en ville ». Non, 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 je ne vous parle pas des autos. Je vous donne un exemple. Ou quand je vous parle d'auto, là, je vais vous parler de gens qui sont handicapés puis qui ont une vignette. C'est quelqu'un qui m'écrit en disant « personne à mobilité réduite, je vis sur Christophe Colomb. En bas de chez moi, il y a une vignette pour stationnement réservé pour personnes handicapées. » Ce qu'elle utilise. Vendredi matin, interdiction temporaire de stationnement partout sur Christophe Colomb. J'appelle à Info Travaux, on me dit qu'un permis de construction a été mis jusqu'au 29. Le samedi soir, je sors de chez moi. Surprise, une piste cyclable passe dans ce qui était auparavant des stationnements, dont mon stationnement. Je vais chercher ma voiture que j'avais stationnée sur Boyer, la rue à côté. Il y a maintenant des interdictions de stationner sur Boyer aussi. Et sur Beaubien, pour le corridor piéton, et sur Bellechasse, autrement dit, le quadrilatère au complet, a été transformé. Ils font ça le week-end. Pas parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Il y en a déjà une, puis il y en a plein autour. Non, on a décidé, au Politburo de la Ville de Montréal, de fonctionner de cette façon-là. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est un exemple. Je pourrais vous donner un autre exemple. Qui se passe, et on va parler avec ce monsieur qui a écrit sur Facebook un statut quand même, où il raconte, lui, c'est même pas une question d'auto, c'est un piéton. C'est un monsieur qui fait ses courses dans le quartier, il prend l'autobus. Mais avec tous les aménagements bâtards que la ville a fait, sur Rachel, bien là, on est obligé de changer le parcours d'autobus. Puis il se fait répondre, bien marchez, monsieur. Allez faire vos courses, là, faites-vous livrer. Vous n'êtes pas content, bien marchez, c'est un kilomètre. Pas grave. C'est du mépris des citoyens. C'est ce que j'appelle les gens qui sont enfermés dans une logique, qui profitent actuellement de la pandémie là, pour mettre à exécution les plans qu'ils retiennent depuis longtemps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accorder plus d'espace au vélo. Je ne dis pas que la mobilité change en cette période, il y a moins d'autos. Mais là, les autos reviennent par hasard. Puis savez-vous quoi? L'administration Plante, là, qui est spécialisée dans les discours vides de sens quand on parle du commerce, si ces gens-là étaient sérieux, à part de nous annoncer des millions, parce que ça, ça fait partie quand même des spécialités gouvernementales, là, c'est de garrocher des chiffres, ils écœurent le commerce local, ils écœurent les commerçants au marché Jean Talon, ils ont tenté d'écœurer les commerçants sur Saint-Laurent dans Petite-Italie. Il y a combien de gens qui se font dire, par exemple, on voudrait faire de la livraison, tu essaieras de livrer à Montréal, toi, sans te faire donner des tickets, parce que là, on va recommencer à donner des tickets. Écoutez, là, on va me dire, à moi, qu'on a un plan très stratégique, très articulé à la Ville de Montréal, c'est une joke, OK? Et l'image, là, de prendre tout ce qu'il y a de poteaux, de pancartes, d'avis, d'interdits, puis de mettre ça pêle-mêle sur la chaussée, ça ressemble pas mal à ce qui se passe sur plusieurs rues de Montréal, et comme dirait la Poune, c'est pas fini. Ils ont l'intention de continuer à faire ça. Tu leur dis, OK, combien vous avez enlevé d'espace de stationnement? Regardez TVA, pas capable de nous le dire. Ils savent même pas combien d'espace de stationnement. Ils ont mis une piste cyclable devant une borne électrique qui empêche quelqu'un d'aller charger sa voiture. Ça, ce sont les spécialistes de la mobilité durable puis de l'environnement. C'est complètement... Là. Puis là, ils vont dire, ouais, mais Michel, quand c'est temporaire. L'impôt sur le revenu était une forme temporaire également pour financer la guerre. Alors ça aussi, on va vous en reparler tantôt. Le ministre Pierre Fitzgibbon sera avec nous. On va essayer de comprendre l'offre assez spectaculaire qui est faite pour le Cirque du Soleil. Là. C'est 200 millions américains avec une forme d'option d'achat. On va essayer de comprendre la dynamique autour de ça. On sait que la garantie, c'est que le Cirque garde son siège social. Mais qui sera payé avec le 200 millions? On sait qu'il y a beaucoup d'employés, beaucoup d'artisans qui n'ont jamais eu les montants prévus, qui ont été largués. Là, je comprends que M. Laliberté est intéressé, là, qu'il y a une vision, qu'il est en train de parler avec d'autres pour voir si... Mais ça vaut combien, le Cirque du Soleil? Aujourd'hui, là, c'est une maudite bonne question, je trouve. Quelle est la valeur du Cirque du Soleil? Pas de réponse à vous donner. On va essayer de poser la question tantôt à M. Fitzgibbon. Également, ah oui, ce matin, rapidement, peut-être des éléments aussi sur la scène internationale. D'abord, vous dire que les recherches pour les vaccins, les médicaments, je faisais le tour ce matin pour avoir les derniers détails. Il y a quand même des avancées intéressantes. D'abord, et c'est dans le monde, là, on confirme que de plus en plus, les résultats prouve, selon les études, là, notamment menées à Strasbourg, que l'infection par le virus amène la production d'anticorps et que ces anticorps possèdent une action neutralisante contre le coronavirus. et que 6 semaines après l'apparition des symptômes, il y a encore les anticorps. Donc, ça veut dire qu'il y a une immunité qui se crée, ce qui est une maudite bonne nouvelle. La question, c'est combien de temps ça dure? Trop tôt pour le savoir. Alors, ça, c'est quand même un élément extrêmement positif. Il y a d'autres entreprises qui ont développé des vaccins. Il y a des essais cliniques qui vont se faire. Mais disons que c'est à suivre, là. Il faut vraiment respecter toutes les étapes cliniques avant de pouvoir en arriver à un vaccin, ce qu'il y en aura même plusieurs. Ça reste à déterminer. On fait le tour de l'actualité comme ça. On va faire la pause. Il est 6h22. Et Marc va nous dire comment ça va sur la 13.